Voilà, donc, le clonage. Alors, d'abord, je veux dire, il fallait définir ce qu'est le clonage. Moi, j'ai pris la définition bête et méchante du Larousse, parce que, je veux dire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, encore à l'heure actuelle. Et je trouve que ça explicite assez bien la chose. Donc, le clonage, ben, ça veut dire obtenir, par des manipulations biologiques, parce que c'est le clonage biologique, hein. On pourrait imaginer d'autres types de clonage, y compris cloner, par exemple, des logiciels. Ça s'appelle copier. Mais, donc ça, c'est des clonages biologiques, donc ce sont des manipulations biologiques. Et de quoi ? Ben, d'une série de molécules ou d'êtres vivants identiques. C'est-à-dire que la notion, elle est, un, manipulation biologique, deux, alors, on manipule quoi ? Soit des molécules, soit des êtres vivants, et pour obtenir quoi ? Ben, des objets identiques. D'accord ? C'est clair ? Donc, c'est ce qu'on trouve dans le Larousse, et c'est une excellente définition. Alors, vous voyez que quand on a dit ça, c'est hétérogène, ça, que ça peut regrouper beaucoup de choses, de manière évidente. Alors, comment on fait ? Non, allez-y, hein, c'est vraiment comme ça, n'hésitez pas. Y a un certain nombre de clonages, parce que, je veux dire, on parle toujours d'un certain nombre de choses, mais je veux dire, le clonage, c'est très vaste. Et ça regroupe pas mal de choses qui sont extrêmement différentes, aussi bien par leur technologie que par ce qu'on peut en faire par la suite. Donc, le but de ces techniques. Bon, grosso modo, on en distingue quatre. Bon. Le clonage cellulaire, donc le clonage de cellules, c'est-à-dire reproduire, on verra, reproduire une cellule identique, le clonage de gènes, le clonage dit reproductif, et quatrièmement, le clonage à visée thérapeutique. Et donc, on va aborder ces quatre points, et ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner une idée générale de comment ça marche, et après, je vais essayer de vous décrire aussi à quoi ça peut servir et les questionnements que ça pose. Pour certains, vous le voyez très vite. Alors, clonage de gènes, c'est clair que ça sera les OGM. Hein. Mais je vais vous expliquer d'abord comment ça se fait avant qu'on puisse aborder les questionnements sur ces technologies, parce que sinon, je veux dire, on va parler dans le vide. Donc, le clonage cellulaire, bien, voilà, ça consiste à prendre des cellules, éventuellement une seule cellule, et à la reproduire à l'identique. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que nous allons à ce moment-là disposer d'un matériel unique et d'un matériel génétique homogène. C'est même d'une cellule. C'est-à-dire toute l'hétérogénéité. Ici, par exemple, nous n'avons, aucun d'entre nous n'a le même patrimoine héréditaire. Hein. Nous savons parfaitement que nous avons des différences dans la séquence de nos gènes, dans la séquence de notre ADN, bon, plus ou moins, mais c'est obligatoire. Personne ici, à moins qu'il y ait des vrais jumeaux homozygotes, s'il n'y a pas de vrais jumeaux, il n'y a personne qui a le même patrimoine héréditaire dans l'assistance. Et donc, je veux dire, quand vous récupérez une cellule, vous avez une cellule qui est parfaitement homogène, donc qui n'a qu'un seul patrimoine héréditaire, celui du donneur, et si vous le reproduisez, et donc qui va avoir des caractéristiques qui ne sont pas variables et qui peuvent être toujours les mêmes, et donc que l'on peut maîtriser. Après, on verra à quoi ça sert. Alors, ces cellules, elles peuvent dériver de quoi ? Bon, elles peuvent être. Alors, quand on regarde ce que la destinée des cellules, ben, la première cellule, c'est ce qu'on appelle une cellule totipotente, c'est-à-dire que toutes les potentialités pour l'avenir. La cellule totipotente la plus connue, c'est l'ovocyte, hein, et l'œuf, puisqu'elle peut tout donner par définition. Au moment de la reproduction, je veux dire, vous avez une cellule, un œuf, un spermatozoïde, ben, pour la reproduction sexuée. Et puis après, X temps après, ça dépend des espèces, ben vous avez un organisme entier qui est formé de milliards de cellules, qui elles sont différentes, qui forment des tissus divers. Mais la cellule de départ, elle est totipotente, c'est-à-dire qu'elle a toutes les potentialités. Et au fur et à mesure de l'embryogenèse et du développement de l'embryon, eh bien, les cellules voient ce qu'on appelle une restriction de leur potentialité jusqu'à l'adulte dans lequel, ben, je veux dire, jusqu'à présent, une cellule de muscle, par exemple, c'est pas un bon truc, une cellule d'os, par exemple, un chondrocyte, une cellule nerveuse, un neurone, etc. Je veux dire, font pas autre chose. Elles ne peuvent faire que ça. Elles ne donnent que ça. Et si elles sont capables à nouveau de se diviser, elles vont donner que ça. Et donc, quel est l'intérêt de cloner ces cellules et de pouvoir donc les reproduire de manière indéfinie? Bon, c'est ce qu'on appelle, grosso modo, ben, la thérapie cellulaire. C'est ce que j'ai marqué là. Qu'est-ce que ça veut dire, la thérapie cellulaire? Eh bien, je veux dire, si à un moment vous avez un déficit dans une cellule ou bien qu'un organe fonctionne mal, eh bien, on va vous réimplanter des cellules correspondant à, qui sont capables de réparer, c'est-à-dire de se reproduire, de donner à nouveau cet organe, cette possibilité. Alors, par exemple, je veux dire, je ne sais pas si c'est le plus ancien, ça, je suis en train de réfléchir, mais une application très ancienne de ceci, ben c'est dans le cas des anémies, la transfusion sanguine. Hein. Alors là, ce n'est pas du clonage, parce que ce n'est pas cloné, mais je veux dire, c'est de la thérapie cellulaire. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire maintenant? C'est de faire des lignées, par exemple, de cellules, on le verra pour le clonage thérapeutique, hein, des lignées de cellules embryonnaires, par exemple, humaines, qui soient justement donc cloné, bien défini, qu'on puisse reproduire, qu'on puisse faire se diviser et qui éventuellement pourrait servir à remplacer des cellules qui meurent pour une cause X. Par exemple, si vous avez un infarctus myocarde, ben, il y a une partie, alors votre âge non, mais au mieux ça arrive, et vous avez une partie du cœur qui va mourir, les cellules vont mourir, et donc pour les réparer, bien, si on a une lignée bien établie, bien, on peut les récupérer et les réintroduire. Et donc, refaire de la cellule cardiaque et compenser. Bon, c'est une thérapie qui est aussi, c'est la thérapie cellulaire, quelque chose qui est extrêmement intéressant et avantageux à développer pour les maladies génétiques. On y viendra à la fin. Alors, bien que le clonage cellulaire, c'est la première technique de clonage que l'on ait fait, et par exemple, je veux dire, on clone des bactéries, vous verrez comment on fait pour avoir une bactérie unique qui contient par exemple un gène exogène unique. Ça, c'est des très très vieilles techniques. Malgré cela, pour les cellules des animaux et du corps humain en particulier, la thérapie cellulaire n'est pas encore une technique qui est. C'est encore de la recherche expérimentale. C'est encore c'est très travaillé à l'heure actuelle, mais il n'y a pas d'application. Si vous avez un problème qui pourrait être traité par thérapie cellulaire, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, bon, comme moi à la pharmacie, bien sûr, mais aller à l'hôpital, dire voilà, je voudrais être traité par moi. Donc, je veux dire, ce sont des voies extrêmement prometteuses d'avoir des lignées clonées comme ça, et qui vont donner qu'un ou quelques types cellulaires qu'on va pouvoir utiliser comme médicament, hein, comme agent thérapeutique. C'est extrêmement prometteur et c'est pas. Alors, vous voyez que on en discutera dans la quatrième part, le clonage thérapeutique. Si, effectivement, pour les cellules différenciées ici du corps humain, il se pose peu de problèmes, dès qu'on va vers l'embryon, il va s'en poser quelques-uns avec quelques réticences. Bon, on en parlera dans la dernière. Partie de l'exposé. Alors, le clonage de gènes, ça c'est la deuxième chose. Alors, avant de nous parler du clonage de gènes, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, il faut quand même faire quelques rappels. Alors, je ne sais pas, là, en biologie, ce genre de l'ADN, les trucs, vous avez déjà eu des cours là-dessus? C'était en quoi, en seconde? Ou en première? Ah oui? D'accord. Alors, je vais quand même faire des rappels, parce qu'on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que c'est, Bon, vous savez tous que si nous avons les caractéristiques que nous avons, à savoir une tête, deux bras, deux jambes, des organes qui fonctionnent de manière spécifique, un poids, un cerveau, il fait ceci, ça tient à quelque chose d'extrêmement simple, c'est que nous avons un matériel génétique qui nous permet de nous reproduire à l'identique, enfin plus ou moins à l'identique, parce qu'il y a des variations, mais je dirais que les grandes caractéristiques vont être transmises de génération en génération. Parce que, bon, si vous réfléchissez un petit peu, je veux dire, pourquoi les enfants ont des caractéristiques très voisines de celles des parents? Et pourquoi notre espèce a toujours deux bras, deux jambes, enfin, majorité, parce qu'il y a des erreurs. Mais, bon, je veux dire, ça paraît évident, mais ça n'a pas toujours été, hein. Et pour moi, ce n'est pas évident au départ. Et en particulier, c'est-à-dire, pourquoi ça marche comme ça? Ben, ça marche comme ça, parce que dans toutes nos cellules, et dans l'œuf, d'abord, ben, on a ce qu'on appelle du matériel génétique qui code tout ça. Et au fur et à mesure, les cellules, quand elles se divisent ou quand c'est reproduction, eh bien, tout ce code est retranscrit à la descendance, alors la descendance que ce soit de l'organisme ou des cellules. Et c'est ça qui nous permet d'assurer à notre descendance des caractéristiques qu'elles ont. Alors, on peut avoir des petites variations, bien entendu, c'est pour ça qu'on n'est pas exactement à l'identique par rapport à nos parents. Quand ces petites variations touchent des choses qui sont bon, pas très très importantes, hein, les caractéristiques morphologiques par exemple, qui ne sont pas très importantes, bon, ok, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme. Quand elles touchent ces variations à un endroit sensible du génome, ben, ça s'appelle une maladie génétique. Donc, une maladie génétique n'est que une variation de notre patrimoine héréditaire. Là, je fais un petit peu le petit aparté là-dessus. Donc, notre patrimoine héréditaire varie. Nous accumulons des mutations. 99,9%, je ne sais pas combien, mais pratiquement toutes ces variations sont neutres, parce que les parties importantes de l'ADN, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, sont peu, en nombre, sont pas importantes par rapport à la taille globale de l'ADN, qui sert apparemment à rien. On n'en est pas sûr. Donc la plupart sont neutres. Par contre, elles servent à quelque chose, à vous identifier. Ben, c'est comme ça qu'on fait les analyses génétiques pour les criminels. Hein. Si on n'avait pas de variation, ben, elles sont portées dans les gènes. Hein. Elles sont faites dans les séquences en dehors des gènes. Il y a une dizaine de régions dans le génome qui sont extrêmement, ce qu'on appelle polymorphes, et qui varient énormément. C'est-à-dire qu'il y a à peu près par région entre 300 et 1000 formes différentes de cette région, avec une toute petite variation. Et c'est comme ça, quand on regarde la combinatoire de ces variations sur 5-6 régions du génome humain, une combinaison est unique et il faut avoir une population supérieure à peu près à 20 milliards pour avoir la chance de trouver cette même combinaison. Donc, c'est neutre, c'est-à-dire que ça ne va pas changer votre aspect ou quoi que ce soit, votre métabolisme, votre santé, okay. Mais on l'a quand même utilisé, moi, c'est sur les cartes d'identité génétique. Hein. Et donc, par contre, quand elle touche une région, vous allez voir quelles sont ces régions, je veux dire, bon, ça peut amener des pathologies héréditaires. Alors, cette hérédité, comme je vous dis, c'est pas venu de manière spontanée comme ça, mais en général, la science, hein, jamais de manière spontanée non plus. Hein. Et on ne savait pas très bien jusqu'à le 19e siècle quel était le support de qu'est-ce qu'il y avait dans les cellules qui pouvait être le support de l'hérédité. On s'est aperçu relativement tard que c'était dans le noyau, parce qu'une cellule est composée donc, du cytoplasme et d'un noyau. Et dans ce noyau, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est-à-dire, quand les cellules se divisent, ben, on a trouvé ce qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes qui sont, alors, bon, nous, il y a 22 paires de chromosomes plus les chromosomes sexuels. Hein. Sur les espèces, le nombre varie. Hein. Et donc, un chromosome, c'est en fait formé de quoi? C'est formé d'une molécule, vous verrez tout à l'heure, ce qu'on appelle l'ADN, avec des protéines. Donc, c'est une structure extrêmement compactée. Et c'est là où réside, c'est dans cette structure cellulaire que réside l'hérédité. Alors, chose amusante, on a à l'heure actuelle, par le clonage dont je vous expliquais tout à l'heure, on a réussi à isoler les chromosomes les uns des autres et à faire des marquages colorés, enfin, avoir un système qui permet de les reconnaître de manière individuelle. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le karyotype, c'est la carte d'identité chromosomique d'un individu, et chaque chromosome est marqué par une couleur différente. Et alors, vous me direz pourquoi on fait ça. Ben c'est, ça, c'est très, extrêmement simple, parce que, je veux dire, s'il y a une anomalie dans un chromosome, parce que la première chose qui se passe, par exemple, c'est une naissance d'un enfant qui a quelque chose d'anormal, mal formé, par exemple, on fait automatiquement l'analyse de son caryotype et on regarde s'il n'y a pas eu un gros problème au niveau des chromosomes, parce qu'il y a des bouts de chromosomes qui peuvent s'échanger, par exemple. Et, ça. Et alors, le fait de pouvoir les colorer, ben, c'est extrêmement commode, parce que s'il y a quelque chose... Là, c'est un caryotype normal. Hein. Mais s'il y a quelque chose d'anormal, eh bien, on peut voir, par exemple, si, imaginons qu'un bout de l'X soit venu sur le chromosome 2, ben, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le chromosome 2, il y a un bout de vert là, qui va venir sur le 2, et un bout de rouge qui va venir sur l'X. Ce qu'on appelle une translocation réciproque. Et donc, on voit très bien, en plus, où ça s'est passé. Donc, c'est extrêmement intéressant comme outil pour nous en termes d'analyse. Ça s'est fait à l'hôpital, hein, de manière pas courante, mais j'espère que non, parce que les pauvres, ça veut dire que les gamins, ils ont des malformations. Mais bon, il y en a plusieurs dizaines tous les jours, hein, puisque parce qu'on recrute le sud de la France en général. Donc, voilà. Donc, comme je dis, le chromosome. Alors, à l'intérieur de ce chromosome, quelle est la molécule qui est porteuse de l'hérédité? Ce chromosome, c'est une structure cellulaire, hein, comme un cil, une membrane. Et donc, quelle est la molécule qui est à l'intérieur? Parce que nous sommes formés de quoi? Nos cellules sont formées de quoi? Ben, c'est un assemblage en trois dimensions de molécules, hein, qui ont des interactions les unes avec les autres, et que chacune ayant une fonction. Donc, quelle était à l'intérieur de ce chromosome? La molécule qui était responsable de l'hérédité. Figurez-vous que c'est de la fin des années 40, hein, c'est ce qu'on a trouvé. Mais c'était pas évident. On connaissait l'ADN avant, mais on n'était pas sûr que c'était responsable de l'hérédité. Donc c'est pas. Ça date pas de très longtemps. Et donc on s'est aperçu que c'est une molécule. Voilà, bon, vous connaissez tous probablement l'ADN avec une structure en double hélice et que l'hérédité était inscrite là-dedans. Et on s'est aperçu de manière assez amusante, c'est-à-dire que c'est s'est passé chez les bactéries et il y a quelqu'un qui a pris de l'ADN d'une bactérie qui l'a introduit dans une autre bactérie et s'est aperçu qu'elle ne fonctionne plus pareil. Voilà. Donc c'est dit que l'hérédité était probablement là-dedans. Et donc, vous le voyez, ça c'est une cellule, hein. Vous voyez la cellule qui est là, ça c'est sa membrane, ça c'est son cytoplasme, et puis dans son noyau, vous avez les chromosomes. Alors là, il a été figuré, bon, le chromosome déroulé, décompacté, où on voit l'ADN et qui est formé d'ADN. Alors, le problème, c'est que, par exemple, notre patrimoine et le langage, le code qui est dans l'ADN, et qui permet qui constitue le message génétique est un code à quatre lettres, comme vous connaissez probablement, A, C, G, T. Ce sont des bases, ce sont des molécules chimiques tout à fait particulières qu'on appelle les bases nucléiques. Et le message, donc, est là-dedans. Et le message, par exemple, dans l'espèce humaine, le nombre de ces lettres est de 3 milliards. Or, un gène a une taille, allez, de quelques dizaines de milliers, pas plus. Donc, je veux dire, on ne peut pas travailler sur l'ensemble, parce que le clonage, au début, ça a été ça, hein, le clonage des gènes. Hein. On ne peut pas travailler sur un ensemble aussi énorme. Et en plus, je veux dire, on ne peut pas le reproduire en tant que tel. Donc, on s'est dit, ben, on va essayer de, un, pour étudier chacun de ces petits endroits qui contiennent les gènes, on va faire la chose suivante, on va le fractionner, et on va le mettre dans ce qu'on appelle un vecteur. Un vecteur, c'est quelque chose qui va permettre, après, de le dupliquer et de le reproduire. Et donc, de disposer de collections, de petits bouts du génome, que l'on va pouvoir étudier, faire par exemple ce qu'on appelle la séquence, à quoi ça sert ça. Et qu'on va pouvoir, et on va pouvoir disposer de collections, par exemple, d'un million de petits fragments. Chacun est cloné, puisqu'ils vont être isolés les uns des autres, à l'intérieur de ce qu'on appelle un vecteur, je vais vous dire ce que c'est, un vecteur, et que l'on peut reproduire, on peut reproduire, pas des kilos, mais enfin, on peut produire des grammes d'ADN comme ça, alors que dans une cellule, nous avons des picogrammes. Hein, et tout ceci de manière, donc, toujours reproductible et dont on peut disposer quand on veut, comme on veut, et qu'on peut partager avec des collègues, que l'on peut s'échanger. Alors, comment ça se passe? En fait, je veux dire, donc il y a des enzymes qui sont des enzymes classiques du corps humain qui découpent l'ADN. Et qui découpent l'ADN dans des endroits particuliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un endroit du message pour que l'enzyme reconnaisse cet endroit d'ADN et le coupe. Donc, grâce à ces enzymes, on peut avoir des petits bouts, comme ça, des collections de petits bouts de notre génome. Et la grosse invention, ça a été ce qu'on appelle le plasmide. C'est quoi? Le plasmide, c'est une petite molécule circulaire qui est la base et le mécanisme de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc c'est tout naturel au départ. Hein. C'est quelque chose qui sert aux bactéries quand elles rencontrent quelque chose de pas très bon pour elles, de toxique, ben, ils ont leur plasmide qui produit une résistance à un antibiotique. Par exemple la pénicilline. Parce que les bactéries, à un moment, ont dû rencontrer des moisissures, des pénicilliums qui produisaient la pénicilline, parce que ça vient de la pénicilline, hein, c'est des moisissures, c'est un champignon qui produisent. Et donc, elles ont réagi. Alors, ces plasmides sont petits, c'est très bien, parce que c'est des molécules très petites, mais qui ont la capacité de se dupliquer à l'intérieur des bactéries. Donc, quand on a inventé des techniques pour utiliser ce plasmide, lier les bouts d'ADN au plasmide et les remettre dans les bactéries. Alors, le gros avantage, c'est qu'une fois que le plasmide a été réintroduit dans la bactérie avec ce bout d'ADN lui-même, par exemple le bout jaune, on peut, comme on dit, le cloner, c'est-à-dire on peut disposer de collections de bactéries qui chacune ont un bout différent, et on peut les reproduire de manière indéfinie. Les bactéries peuvent se diviser pendant. Et on a des fermenteurs, des appareils dans lesquels on est milieu, on met des bactéries, on les fait pousser et ça produit, ça produit. Et après, bon, on a des techniques pour purifier l'ADN du plasmide, bon, ça je ne vais pas vous en parler. Et on peut réintroduire à partir de ces bactéries, on peut récupérer le petit bout, le plasmide avec le petit bout d'ADN quand on veut, de manière très facile. Les techniques sont très au point. Et elles ont une trentaine d'années, ou 30-40 ans. Et donc, on peut disposer, par exemple, de collections de plusieurs millions de bactéries différentes qui, chacune, ont un petit bout d'ADN humain à l'intérieur de leur génome à elles. Donc, on le voit d'ailleurs, par exemple, et donc, on en récupère une, ce qu'on appelle le cloning, le clonage, et après, on reproduit ces bactéries de manière indéfinie. Tant que le labo ne brûle pas, ou qu'on ne fait pas une erreur, ou qu'on ne contamine pas les cultures. C'est ça, ça peut arriver. Alors, à quoi ça a servi, et à quoi ça peut servir d'avoir. Bon, la chose la plus. Il y a eu plusieurs applications. La première, c'est de comprendre comment fonctionne notre génome. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne pouvait pas l'étudier. C'était une molécule tellement immense, c'était tellement gros, qu'on ne pouvait pas faire. Par exemple, ce qu'on appelle la séquence du génome humain, c'est-à-dire décrypter tout le message, on peut le faire que par bout, d'un millier. Et vous avez 3 milliards de séquences. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je veux dire, la séquence du génome humain, elle a été faite petit bout par petit bout. Et après, on a utilisé des. Alors, les petits bouts en général se chevauchaient, et on a utilisé il a été développé des outils informatiques qui permettaient de reconnaître que les deux bouts se chevauchaient et de reconstruire toute la séquence, bout par bout, les uns derrière les autres. Et on pouvait faire que ça, parce que vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple de séquence. Ça, c'est les quatre bases. Et puis, alors, par exemple, vous lisez les bases. Et la séquence, vous la lisez comme ça. 1, 2, alors, par exemple, si c'est A, C, G, T. Là, c'est A, C, T, C, C. Non, G, C, G. Et donc, on a... Bon, maintenant, ça se fait de manière automatique sur des gros appareils. Hein. Et donc, on a disposé comme ça. De toutes les séries de petit bout cloné, l'ADN humain, dans les plasmides, qui se chevauchaient. On a fait la séquence, et après on a fait tourner de très gros ordinateurs pour reconstituer parce que ce n'est pas évident. Parce que si ça se chevauche sur pas beaucoup, vous pouvez remettre 200 ans du génome humain qui a des séquences identiques, mais qui ne sont pas en fait contiguës. Hein. Donc bon, il a fallu vérifier, il a fallu développer ce qu'on appelle la bioinformatique. Hein. Et ça nous a permis de reconstituer, comme je dis, la séquence du génome humain en totalité. Alors, à quoi ça a servi? Ben, ça a servi qu'en fait, maintenant, vous verrez ce que ça veut dire les gènes, parce que maintenant, il y a 10 ans, on pensait qu'on avait 100 000 gènes, on n'a probablement que 30 000, et qu'on avait beaucoup plus par rapport aux autres espèces. Non, c'est pas le cas. Et probablement, c'est les mécanismes différents qui introduisent la diversité. Donc ça nous a permis déjà, bon, c'est une connaissance énorme hein, par rapport à ce que c'était avant. Et en plus, je veux dire, on avait la séquence de très peu de gènes. Parce qu'on ne les avait pas isolés, on ne savait pas écrire. Et grâce à la séquence du génome humain, maintenant, nous avons la séquence de tous nos gènes. Alors, non, la séquence de tous les gènes d'un monsieur. Parce que la séquence a été faite sur un individu. Et heureusement, s'il a un problème dans ses gènes, ou malheureusement, si c'est nous qui en avons un, la séquence n'est pas la même. Mais par contre, c'est la séquence de référence. Bon, ce monsieur n'était pas malade, hein, et c'est un Français en plus. C'est une collection de cellules qui a été faite à Paris. Donc, c'est la séquence de référence. Et cette séquence de référence, elle nous est extrêmement utile parce que, par exemple, comment on fait pour savoir si dans un gène, il y a une anomalie? Bon, c'est la séquence, et puis on se réfère à la séquence de référence. Et on a des logiciels qui comparent les séquences. C'est la comparaison de caractères, hein. C'est là qu'ils font de l'informatique. C'est-à-dire, vous comparez ACGT, bon, ça c'est identique. Et elle compare les deux messages, en comparant les lettres, les caractères, et elles parviennent à identifier comme ça. Est-ce que il y a une différence, et où se trouve-t-elle? Et bon, je vous détaillerai un petit peu les choses par la suite. Et ça, c'est grâce à ça. Au début, quand on cherchait les gènes responsables de maladies héréditaires, on mettait très longtemps. Maintenant, je veux dire, quand on veut trouver une mutation, parce qu'on suppose que les signes cliniques nous font croire qu'il y a peut-être quelque chose dans ce gène-là, bon, ça va très très vite. Et tous les gènes sont identifiés. Moi, quand j'ai commencé, parce que je travaillais dans le séquençage du génome humain, hein, la région sur laquelle nous étions chargés, nous, de faire, c'est un consortium international hein, qui fait ça, en général, qui a fait ça. Et chacun, on était chargé d'un bout. Nous, c'était du chromosome X, du centre mère à la bande Q21. On avait 4-5 gènes connus. Par nos travaux, au début, on en a trouvé 5-6 supplémentaires. Quand la séquence est sortie, il y avait 100 d'un coup. Alors, c'est un peu frustrant parce que tu as travaillé par exemple 4-5 ans, pendant 2 ou 3, puis la séquence t'en donne 100. Mais donc, vous voyez tout l'intérêt de ce. Et grâce à ça, on a trouvé quels étaient les gènes de sa région qui étaient responsables. Alors, mon laboratoire en particulier, mais d'autres aussi, parce que c'est partagé par. C'est sur le web, hein. Il y a des sites où vous trouvez toutes les séquences, et vous trouvez les outils pour faire les comparaisons de séquences. Et donc, grâce à ça, on peut identifier ce qu'on veut et toutes les anomalies possibles. Et donc, ça a été pour nous un outil énorme. Alors, pourquoi c'est un outil énorme? Je vais vous expliquer un petit peu aussi. Qu'est-ce que c'est après qu'un gène? Et à quoi ça sert? Bon, un gène, c'est un bout de l'ADN qui contient un message génétique, qui a la possibilité d'être copié en ce qu'on appelle un ARN, mais qui ensuite va dans le cytoplasme et va être décodé, ce qu'on appelle le ribosome, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va synthétiser nos protéines. Donc le gène, basiquement, le dogme au départ, c'est un peu moins remettant, c'était un gène, une protéine. C'est-à-dire que alors, nous sommes formés majoritairement d'eau, hein, d'ADN et de protéines. Un peu de lipides, un peu de chaînes sucrées, mais avant tout les protéines, ce sont les protéines qui font tout le travail, y compris d'ailleurs dans les mécanismes de différenciation. Par exemple, si vos globules rouges sont capables de fixer de l'oxygène, vous pouvez respirer, ben c'est parce qu'ils synthétisent de la globine, hein, l'hémoglobine. Donc, le gène, ben, c'est le message pour faire la protéine, basiquement. Et le message, comme je l'ai dit, il est avec ces trois lettres. Alors, si vous avez dans la... Et il va mettre des aminoacides qui font les protéines, il va les mettre les unes derrière les autres, et donc il va synthétiser la protéine. Alors, il est évident que ce message, il est extrêmement précis, il est un peu dégénéré, mais il est précis. Mais, et donc, si vous changez une lettre, ça peut être soit neutre, et vous voyez par exemple que vous avez, si vous avez CC comme message, que vous ayez ensuite T, C, A ou G, ça va toujours dans la proline. Ça va. Donc, c'est ce qu'on appelle une modification neutre. Mais par contre, si vous avez, au lieu de si vous avez C, mais après T, et pas un autre C, ben, ça va faire un autre aminoacide. Donc, ça va faire une protéine différente. Et cette protéine différente, donc, va avoir un aminoacide différent. Et donc, souvent, c'est neutre, mais des fois, ben, ça, la protéine ne fonctionne plus. Donc, par exemple, vous avez des globines qui ne fixent plus l'oxygène, ou beaucoup moins bien, vous avez des anémies. Ou bien, je veux dire, même la protéine précipite un peu et vous avez de très gros problèmes. Ça, c'est le cas dans la drépanocytose, par exemple. Donc, le gros avantage de connaître cette séquence, c'est que de connaître la séquence du génome, c'est que vous connaissez, la séquence de toutes nos protéines, parce qu'on a trouvé des protéines comme ça, uniquement en décodant par informatique la séquence de l'ADN. Et on a dit, tiens, ça ressemble à une protéine. Et cette protéine, on ne la connaissait même pas. Et maintenant, des fois, on ne sait même pas totalement à quoi elle sert. Donc, je veux dire, ça nous a appris énormément de choses. Donc, vous voyez, ça, c'est le côté positif de la chose. Énormément de choses, notre fonctionnement normal, mais aussi sur toutes les anomalies que l'on pouvait trouver et toutes les différences qu'on pouvait trouver par rapport au message de référence. Et après, ça peut servir à autre chose. Ça peut servir, puisque vous avez un gène, vous l'avez, il est isolé, d'accord ? Vous pouvez, ce petit bout d'ADN, le faire reproduire autant que vous voulez. Vous pouvez en produire autant que vous voulez. Ok. Donc, c'est très bien. Et après, vous pouvez le réinsérer. Je vais vous montrer comment. C'était fait chez les souris, hein, au départ. Hein. Les premières manipulations chez les... Non, les premières manipulations, c'est pareil, c'est fait chez les bactéries. Enfin, bon. Mais ça, c'est pas... Si, c'est très intéressant pour les... Alors, c'est très intéressant, parce que ça, j'ai oublié de mentionner ça. C'est très intéressant de les faire reproduire dans la bactérie ou dans des organismes monocellulaires très basiques, type animaux, type les levures. Pourquoi ? Bah, parce que ça vous permet de produire aussi de grandes quantités de protéines. Bah, par exemple, l'insuline, à l'heure actuelle, est produite par un système d'OGM, de combinant, dans la levure. Il y a... C'est plus exprès du porc, c'est plus exprès des trucs. Il y a le bout de gène qui code l'insuline a été introduit dans la levure, dans le génome de la levure, d'une levure qui, pareil, qui peut se reproduire autant que l'on veut et qui va cracher dans le milieu son insuline. Et après, il ne reste plus que. Et on fait ça dans les fermentations. Enfin, je veux dire, c'est du cellulaire avec beaucoup de moléculaire, donc il y a plus, on n'est pas obligé d'avoir des tonnes de pancréas ou de choses avec des... Là, on le produit comme on veut, quand on veut. Donc, la première application qui est faite, qui est une application industrielle, c'est les organismes recombinants, bah, ils servent à produire des protéines. Hein. Et des protéines qui peuvent être des protéines... Bon, qui sont des protéines naturelles, hein, parce que c'est notre code génétique, hein, ce sont les mêmes, hein. Mais qui sont produits pas par le même processus. Alors, au bout d'un certain temps, ben, les gens se sont posé la question, et si on essayait de les introduire ailleurs, notamment dans les organismes supérieurs, qu'est-ce qui se passerait ? C'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle les animaux transgéniques. Hein. Oui, c'est 30 ans, que les animaux transgéniques. Alors, qu'est-ce qu'on passe ? Ben, vous voyez que d'un côté, bon, on extrait l'ADN, hein, de la bactérie qui nous intéresse, on le prend et on l'injecte dans un œuf de souris, dans un ovocyte. Okay. Cet ovocyte qui est un ovocyte fertilisé, en fait, hein, donc qui a déjà été fertilisé, on l'introduit, hein, et on l'introduit dans une souris, ce qu'on appelle pseudogestante. C'est-à-dire qu'elle a été accouplée avec un mâle qui ne peut pas se reproduire, mais elle ne sait pas, et donc elle produit des hormones, et donc elle est capable de voir l'embryon se développer. Et donc, je veux dire, vous allez avoir production dans les descendances de souris hybrides. Alors, par exemple, si l'œuf est issu d'une souris à pelage noir, Black Swiss, par exemple, et la mère une CBA, et si vous avez des choses porteuses, vous allez avoir dans la première génération, vous allez avoir des souris qui sont noires, des souris qui sont hybrides, et puis des souris qui sont comme la mère. Mais donc, vous allez avoir, ici, c'est un organisme qui est génétiquement modifié, puisqu'elle est porteuse des deux caractères. Et donc, je veux dire, vous voyez ici la manière dont ça se passe. Alors, il n'y a pas de manipulation génétique dans le phénomène d'introduction. La manipulation génétique, elle se fait avant. Hein. Donc, je veux dire, on introduit ici par... vous voyez, on pique. On voit ici le noyau de l'ovocyte avec celui... de, et alors, c'est des microseringues, hein. C'est un truc, c'est extrêmement fin. Ça se fait avec un appareil qu'on étire, une espèce de seringue très fine. Il va piquer l'ovocyte et introduire dans le noyau l'ADN exogène que l'on va introduire. Et après, ben, le reste, c'est on remet on implante dans la femelle. Et donc, bon, après, c'est tout à fait classique. Il y a des naissances, comme vous le voyez ici. Et après, par contre, dans les animaux, on est capable... Ça, ce sont des bandes d'ADN. C'est une méthode de détection. On est capable de détecter les animaux qui sont dits transgéniques, c'est-à-dire qui ont bien inséré dans leur génome le gène en particulier. Alors, ça sert à quoi, ça? Ça a servi à quoi? Bon... nous, par exemple, on a développé une technologie qui permet de humaniser ces souris, c'est-à-dire qu'on a introduit des grands fragments du génome humain dans le génome de la souris. Et pourquoi on fait ça? Pour reproduire des maladies héréditaires, et c'est ça qui nous permet de tester des approches thérapeutiques ou des médicaments pour les maladies génétiques, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on ne peut pas le faire, sur une cellule. Si un animal a des problèmes, enfin, si est malade a des problèmes locomoteurs, une cellule ne marche pas. Hein. Donc, je veux dire, pour savoir si sa molécule corrige, ben, il faut avoir un modèle qui soit aussi proche de la maladie que possible. Si c'est une maladie neuromusculaire, en général, c'est la locomotion qui est touchée. Et donc, il faut essayer de reproduire une souris qui est la même cause, c'est le même gène qui soit touché. C'est pour ça qu'on a en plus, on introduit, nous, le gène humain, puisque donc la cible du médicament sera exactement la même. Et donc, ça nous permet de tester. C'est comme ça qu'on a trouvé la première molécule possible pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth et qu'on a pu faire les premiers essais cliniques au monde sur cette maladie. Et donc, on étudie ces animaux comme des animaux précliniques parce que, je veux dire, c'est interdit éthiquement de faire ça en première intention chez l'homme. Parce que, je veux dire, devant... des problèmes toxicitaires, en tout cas, c'était pas ce problème. Mais deux, je veux dire, il y a un problème aussi par rapport aux malades. Si vous lancez un essai clinique, vous donnez un espoir. OK? Mais pour donner cet espoir, il faut quand même que ça repose sur quelque chose de concret. Donc, je veux dire, moi, par exemple, je m'interdirais toujours de faire un essai en première intention sur quelque chose dont j'ai aucune idée si ça va marcher ou pas. Parce que alors là, je veux dire, vous donnez de l'espoir, puis ça ne marche pas du tout. Et qu'en fait, les malades s'aperçoivent qu'en fait, votre hypothèse reposait sur absolument rien, juste une idée comme ça, un jour que vous avez eue, ben, je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents, hein, à juste titre. Tandis que si vous montrez que nous sommes très proches des souris, nous sommes des mammifères comme nous, si vous avez un modèle qui se rapproche beaucoup de la maladie humaine, eh bien, vous allez pouvoir le tester. Et par exemple, nous, les essais cliniques n'auraient été possibles, et un essai clinique, ça coûte 1 million d'euros. Hein. Et encore, il n'était pas cher. Et donc, ça a été possible que parce qu'on avait créé un modèle de la maladie, c'est très proche du système humain, et que, en fait, le traitement a corrigé, peut-être que la souris ne pouvait plus marcher, elle se remet à marcher. Voilà. Et donc, ça nous a permis, y compris, de convaincre le malade, les pouvoirs publics, l'AFM, le Téléthon, etc., de donner de l'argent et de faire les essais cliniques. Et c'était pareil parce que les essais cliniques, il y en a un aux États-Unis, il y en a deux encore en Europe, donc il y en a cinq aussi. Il y en a eu un en Australie, enfin bon, je veux dire, tout a reposé sur les travaux qu'on a fait qui ont permis de donner cette idée. Alors, par contre, je veux dire, on voit très bien que pour nous, ça a été un moyen de mettre en place des outils qui nous permettent de comprendre comment fonctionnaient les gènes, à quoi ils pouvaient servir, et de faire des modèles qui pouvaient être des modèles, par exemple, de maladies humaines, même en cancérologie, ça a été utilisé, hein, ce genre de choses. Par contre, je veux dire, la même type de technologie peut être utilisée pour faire de la manipulation, soit chez l'animal, soit chez le végétal, parce que bon, ce ne sera pas un ovocyte chez le végétal, mais c'est sera une cellule. Hein. Mais la technologie était absolument la même. Elle n'a pas été réinventée 30 fois. Hein. Transgénose a été inventée il y a 30, 40 ans, et c'est exactement la même chose que l'on fait dans les divers cas. Alors, donc, à quoi elle a été? Donc, un organisme génétiquement modifié, ce n'est pas forcément ce qu'on vous raconte dans l'agriculture. Hein. L'agriculture n'est qu'un exemple d'organismes génétiquement modifiés. D'ailleurs, nous sommes tous génétiques, et tout ce que l'on mange et ce que l'on boit est génétiquement modifié, puisque il n'y a aucune plante comestible actuelle qui ne soit pas issue d'un croisement entre deux ou trois plantes. Hein. Donc, il y a des gens qui ont pensé, ou qui ont imaginé, ou qui se sont intéressés à une chose, c'est-à-dire de se dire, est-ce que l'on ne pourrait pas utiliser cette technologie de transgénose pour créer des produits transgéniques qui pourraient avoir un avantage dans l'agriculture ou un avantage économique. La question qui se pose majoritairement et qui est, à mon avis, pas résolue, mais bon, pour certains oui, pour d'autres non, c'est est-ce qu'il existe un danger? Alors, danger de dispersion de la nature, ça certainement. Probablement. Enfin, pas si c'est des animaux, parce que les animaux, ils sont confinés hein, par nature. Bon, il y en a deux ou trois qui s'échappent peut-être pas longtemps, mais enfin bon, c'est pas. Par contre, effectivement, je veux dire, dans le cas des produits végétaux, on connaît. Alors, il y a probablement de la dispersion. C'est probablement variable suivant les espèces, mais on connaît très très mal et très très peu. Comment ça se passe, quel est le potentiel de dispersion, quel est le potentiel de... Ça, on le connaît très, très mal. Donc ça, oui, ce danger-là existe certainement, mais on ne sait pas très bien l'évaluer à l'heure actuelle. Alors, par contre, je veux dire, existe-t-il un danger à l'alimentation soi-même? Bon, je veux dire, de toutes les expériences qui ont été faites, contrairement à ce que vous pouvez dire partout, alors si vous le lisez ou quelqu'un vous le dit, vous lui demandez la publication scientifique qui s'y réfère. Hein, parce que ça, on peut raconter ce qu'on veut, mais les publications scientifiques là-dessus, il n'y en a pratiquement pas. Et seul qu'il y a, bon, je veux dire, il n'y a rien du tout qui se passe. Alors, moi, je veux dire pourquoi il n'y a pas. Parce que sinon, je veux dire, nous mangeons quand même, notre espèce, des protéines animales, par exemple, végétales, depuis des millions d'années hein, que nous existons. Et s'il y avait un passage d'espèce à espèce, par exemple, ben on l'aurait vu dans la séquence du génome humain. Dans la séquence du génome humain, il est clair qu'il n'y a aucun bout d'ADN qui provient de quelque chose qui passerait par la nourriture. Vous ne trouvez absolument pas, par exemple, de l'ADN de bœuf. Est-ce qu'on pourrait penser ça? Et pourquoi ça ne se passe pas? Parce que c'est la digestion, hein. Tout simplement. C'est digéré en nucléotides, ça ne passe pas, ça ne s'intègre pas dans le génome. On a trouvé que 10 gènes qui n'étaient pas des gènes humains, je dirais, classiques. Et en fait, ces 10 gènes, c'était des gènes qui n'étaient que qui correspondaient à des gènes de bactéries intracellulaires, des bactéries qui vivent dans les cellules. Et là, ils ont réussi à passer, probablement parce qu'ils étaient à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du génome humain. Donc, je veux dire, il n'y a aucune possibilité, parce que sinon, depuis des millions d'années qu'on se nourrit, on l'aurait trouvé dans le génome humain. Donc, il n'y a aucun passage d'informations génétiques entre notre nourriture, quelle qu'elle soit, OGM ou pas OGM, et notre patrimoine héréditaire. Ça n'existe pas du tout. Et pour le reste, bon, l'alimentation, je veux dire, il n'y a aucune donnée qui montre que, contrairement à la dispersion de la nature, qui est une véritable question, dire pour moi, l'alimentation n'en est pas une. La dispersion, oui. Et de manière claire. Parce que nous mangeons de l'ADN tous les jours, vous mangez de l'ADN tous les jours, vous mangez des protéines tous les jours. Il ne se passe rien pour vous. Hein. Alors, dispersion, je veux dire, ça mériterait vraiment, à mon avis, quelque chose une recherche plus approfondie, certainement. Je ne sais pas si quelqu'un la finance un jour, mais bon, parce que ce n'est pas évident. Et c'est vrai, c'est une véritable question. Après, les autres questions, je veux dire, ce n'est plus. Là, il n'y a plus de réponse scientifique, forcément. Les autres questions, c'est est-ce que c'est absolument nécessaire? Ça, c'est une bonne question. Probablement certains oui, probablement d'autres non. Mais cette question est couplée à l'autre, donc qui doit être le maître d'œuvre? Pour ça, c'est encore une position qui est particulière et qui est ma position. Et c'est pour ça que j'étais extrêmement choqué qu'on détruise les pieds de vigne en Alsace par les types qui ont fait. C'est-à-dire, il vaut mieux que ce soit la recherche publique plutôt que la recherche privée. Et la recherche privée, vous ne la maîtriserez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 10 bovées, il n'y arrivera jamais. Elle le faire, parce que je veux dire, il y a trop d'argent, trop de trucs en jeu. Donc je préfère que ce soit la recherche publique qui le fasse et que ce soit contrôlé. Pardon ? Est-ce qu'on peut soigner ? Ah, non, mais ça viendra après. Ça, c'est. Je ne suis pas trop long ? Voilà, mais je vais aller plus vite maintenant. Mais non, mais je crois que c'est important parce qu'après, les discussions, vous les posez les maintenant. Ça, c'est la suite d'après. Le clonage reproductif. Alors, il faut que vous compreniez que quand on parle des brebis, des machins, des clonages reproductifs, il n'y a aucune manipulation génétique. On ne manipule pas le génome. Il n'y a aucune manipulation de gènes. C'est quoi ça se fait? Eh bien, c'est simple. C'est simple parce que c'était technologiquement un peu dur à mettre en œuvre, mais sur le principe, c'est simple. C'est-à-dire que vous prenez un ovocyte, donc comme vous avez vu, comme toute cellule, ben, il y a le cytoplasme, la membrane et le noyau. Et vous enlevez le noyau. En général, vous aspirez avec une pipette. Bon, vous enlevez le noyau. Et vous récupérez le noyau d'une cellule autre, ça peut être une cellule adulte, et vous le réintroduisez à l'intérieur. Donc vous faites un ovocyte hybride. Mais cet ovocyte, il est porteur, et le noyau, il a toutes les caractéristiques du cytoplasme, mais il a le noyau de l'autre, de la cellule. Et cette cellule, dans un environnement embryonnaire, est capable de se reprogrammer, donc son génome redevient, fonctionne à nouveau comme un génome embryonnaire, et quand on le fertilise et qu'on le fait développer pendant quelque temps, qu'on le réimplante dans une mère porteuse, si vous voulez, eh bien, on obtient, ce que l'on obtient n'est pas du tout le génome de la mère porteuse, on obtient des individus qui sont, en fait, des clones de la cellule originelle, et qui ont tous le caractéristique génétique, donc on obtient puisque ce n'est pas de la reproduction, on obtient des clones parfaits de la cellule du départ. Alors, les premières choses qu'on a faites, c'était amusant d'ailleurs. On a pris une vache blanche et noire, une vache blanche et noire, c'est des espèces différentes en fait. Hein. Et on a pris par exemple l'œuf de l'une, on a enlevé le noyau et on a mis l'œuf, maintenant on met autre chose, on met les cellules sématiques de l'autre, et on s'est aperçu que la vache, et on a réimplanté, on s'est aperçu que le petit veau qui est né, c'était même si l'œuf était d'une vache blanche et marron, c'était un veau de l'autre espèce. Et ça se pratique, hein, je veux dire, en fait, parce que c'est pour faire des races dites pures, meilleures, avec la viande de plus, etc. etc. Hein. D'accord, il n'y a pas de manipulation génétique là-dedans. Hein. On n'a pas introduit un gène externe, on n'a pas introduit un gène nouveau. Hein. Donc, et l'exemple le plus classique que vous voyez, ben, c'est celui-là, dans lequel on a pris en fait une cellule de l'animal, d'abord A. On a encore une fois, on a pris son noyau, on a pris l'ovocyte de la brebis B, on a enlevé le noyau et on a réimplanté l'un dans l'autre et on a réimplanté ceci après fertilisation dans une brebis qui est une brebis porteuse. Vous avez un autre exemple comment ça a été fait. Vous voyez, par exemple, on a pris les cellules de ma mère. Hein, on les a fait se diviser. Le noyau, comme vous voyez là, a été extrait l'expulsion du noyau, comme je vous l'ai dit, on met une petite seringue, hop, on enlève le noyau. Alors ça se fait sous le microscope, hein. Il y a des micro-manipulateurs, vous ne faites pas ça comme ça, parce que aussi, vous ne voyez pas. Hein. Ça se fait sous un microscope, le manipule, hop, on aspire le noyau, et après, on prend une autre pipette dans laquelle il y a le noyau de la tête, hop, on le réintroduit comme ça. C'est des micro-manipulations qui se font sous des microscopes. Le troisième exemple que l'on a, je veux dire, c'est ce qui se pratique pas mal, c'est pour les chevaux. Et donc, on récupère des ovaires, et donc ça, on prend l'ovocyte, on prend des cellules, alors c'est des cellules de peau du cheval, et on fait exactement la même chose. Alors, là, l'intérêt, c'est l'intérêt économique, c'est très recherché par les gens qui veulent cloner le gagnant du prix de leur triomphe, ou tout ça, pour essayer de le reproduire. Parce que l'idée, c'était ça au départ, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est quand vous avez un animal qui a une caractéristique intéressante, par exemple, il fait plus de viande, le cheval court plus vite, de reproduire des individus à l'identique, parce qu'ils ont une valeur économique importante, hein, et parce qu'ils sont extrêmement recherchés. Alors, est-ce que ça marche? Alors, d'abord, il faut savoir que ça marche très, très peu fréquemment. C'est très rare que ça marche. On fait beaucoup d'expériences pour avoir un animal. Hein. Donc, l'efficacité du système, il est très faible, déjà. Je vais dire pourquoi j'ai dit ça après. Deuxièmement, l'idée était, parce que ça avait été fait sur des expériences sur d'autres animaux, qu'on avait à reprogrammer le noyau. Ça, c'est probablement vrai, sauf que il y a probablement des choses qu'on n'avait pas complètement à effacer. Et beaucoup d'animaux, y compris Dolly, la première brebis, elle est née avec des anomalies. Donc, quand même problème. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire quand même de l'embryon total, immédiat et sans problème. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que maintenant, on en est à quelques générations d'après, donc on fait reproduire les animaux, un truc, ça. Ces problèmes sont corrigés, de manière générale, et on obtient... Alors, la question se pose, est-ce que c'est vraiment rentable? Parce qu'à la limite, par le croisement classique, on a obtenu l'amélioration des espèces depuis que l'animal et l'homme est devenu un éleveur. Donc ça, on l'a pratiqué pendant des croisements classiques. Est-ce que le fait de cloner quelque chose et de faire une nouvelle lignée à partir de ce clone est-il plus rentable? Il n'y a pas d'évidence. Sur le plan théorique, oui. Sur le plan pratique, ce n'est pas évident du tout. Autre chose, est-ce qu'il est exploitable? Alors, il y a eu une espèce de scandale. Il a été vendu à un bœuf qui était en fait, il y a 3 mois, et qui était en fait un descendant d'un animal cloné. C'est-à-dire qu'il n'est pas transgénique du tout. Moi, je n'ai pas compris quel était le scandale, parce que l'animal, il était pareil qu'il est dans le pain, et que moi, si on me donne de la viande d'un animal cloné, je la mange demain. Alors peut-être que, par contre, dans les bonnes questions que je me poserai, moi, est-ce qu'elle est d'aussi bonne qualité, aussi goûteuse, ça je ne sais pas, hein. Parce que justement, Et parce que ça, c'est le gros problème aussi. Hein. Je veux dire, le problème, c'est que si tu arrives à reproduire quelque chose à l'identique, oui, mais si tu reproduis tout à l'identique, y compris les qualités des... Parce que si c'est pour produire quelque chose qui est cloné, qui est toujours homogène, etc., mais, ou à la limite, on s'aperçoit au bout de quelques temps que la qualité est moins bonne que celle de départ, ben, le consommateur ne va pas en vouloir, hein, de toute manière. Hein. Donc, je veux dire, il commence à y avoir effectivement des animaux... clonés qui se reproduisent et qui font des lignées nouvelles. On verra dans quelques temps si ça a vraiment un intérêt ou pas du point de vue économique. Moi, je ne sais pas. Hein, mais pour moi, ça pose aucun... Ça pose peut-être des problèmes éthiques sur l'animal, mais ça pose aucun problème pour la santé humaine. Donc, pour répondre donc à votre question, est-ce qu'on peut cloner la semaine? Oui, bien sûr. Mais d'abord, un... Oui, parce que la technique elle s'applique... l'homme, hein, aucun problème. Nous sommes des mammifères. Hein. Donc, on peut récupérer des ovocytes, on peut récupérer des cellules, on peut faire exactement ça. Hein. Mais la chose, comme je vous dis, c'est très, très, ça marche très, très mal. Donc, combien il va falloir d'ovocytes pour que ça marche? Et donc, je veux dire, ça va être énorme. Déjà. Donc, techniquement, c'est pas au point du tout. Donc, c'est même pas à l'heure du jour techniquement. Après, et alors, oui, les Raéliens ont dit qu'ils allaient cloner, mais enfin, c'est pas comme n'importe quoi, de toute façon, quoi. Mais je veux dire, il n'y a aucune évidence que quelqu'un... Et après, pour cloner quoi? Je veux dire, après on verra le clonage thérapeutique, et ça c'est plus intéressant. Pour obtenir quoi de plus? Alors, si c'est la science-fiction, en fait, pour obtenir quelqu'un, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui récupérer ses organes? Parce que c'est ça, quoi, je veux dire, qu'il y a derrière. Derrière, c'est quoi? Je veux dire, c'est le clonage thérapeutique qu'il y a derrière, sur lequel on va venir. Donc, pour répondre à votre question, oui, indiscutablement, on a la possibilité de le faire. Non, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, parce que... Il y a trop de problèmes techniques qu'on ne sait pas résoudre. Et trois, il faut faire quoi derrière? Tiens, ça c'est autre chose. Je veux dire, mais techniquement, oui, c'est possible de le faire. Alors, quel est aussi l'espoir, sans aller jusqu'à faire un organe complet, eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle le clonage thérapeutique. C'est-à-dire, par exemple, on a essayé une culture. On prend un ovocyte qui est non fécondé, par exemple d'une mère qui est porteuse de la myopathie de Duchenne, on enlève son noyau, enfin on le détruit, et on prend le noyau d'une cellule du père, ou de, hein, ce qu'on veut, et donc on fait un embryon in vitro, et on utilise des lignées, des cellules de cet embryon pour les réimplanter chez l'enfant malade. Ça, c'est ce qui est envisagé. De manière réelle, faut-il le faire ou pas? J'en sais rien. Marcher, je ne suis pas sûr que ça marche. C'est autre chose. Moi, je ne suis pas certain que ça marche du tout, parce que c'est très difficile à faire. Pour le moment, ça n'a pas été fait. Hein. Donc, techniquement, ça n'a pas été fait. C'est envisageable. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on arrivera dans un futur proche à le faire de manière simple. De manière reproductible, pas sur un cas ou deux, parce que ça c'est de la recherche et c'est de l'expérimentation, mais de faire de manière routinière en milieu hospitalier. Après, en ce qui concerne les possibilités et en ce qui concerne les aspects éthiques, faire ceci ou pas, ça je laisse le soin à tous les gens de réfléchir. Parce que vous êtes obligé de faire un embryon que vous allez utiliser. Mais c'est que l'embryon. C'est pas l'être. Les Mattei diraient que c'est scandaleux. Les parents d'enfants myopathes, ils disent ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez avoir des sacrés conflits avec ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est pas pour maintenant. Hein. Mais il y a des gens. Ça à l'étranger, il y a des. C'est interdit pour le moment en France. Mais à l'étranger, c'est autorisé. Hein. Des recherches. Il n'y a pas eu d'application concrète, je veux dire, il n'y a personne qui a été traité comme ça, il n'y a pas d'enfant myopathe traité de cette manière et qui soit guéri. Hein, par exemple. Il n'y a pas d'essai clinique, c'est comme ça. toute l'Asie, les États-Unis, l'Angleterre. En général, c'est dans ces régions-là où c'est le plus laxiste. Dans le pays, en Espagne et en Italie, comme l'Église est encore forte, on n'en parle même pas, c'est interdit. Dans les pays d'Europe du Nord, enfin, surtout tous les pays anglo-saxons, je veux dire, mais surtout les pays anglo-saxons, hein, États-Unis et Grande-Bretagne, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors l'Asie, c'est aucun. Hein. Eux, Corée, Singapour, la Chine, ils ne sont pas encore techniquement au point. Dans quelques années, ils le feront. Hein. Voilà, et donc ça, c'est le truc ultime du clonage. Mais ça, c'est le clonage. Encore une fois, c'est comme pour l'histoire de la brebis, il n'y a pas de transfert de gènes là-dedans. On pourrait envisager de transférer, mais là, c'est encore pire. On m'a rajouté on pourrait faire transférer un gène en plus, hein, aussi, à cette étape-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Remplacer le noyau d'une cellule par le noyau d'une autre cellule. Hein. Le noyau d'un ovocyte par le noyau d'une autre cellule. C'est tout. Donc, vous ne produisez rien de comme ADN exogène. Il n'y a pas de plasmide avec le petit bout d'ADN que vous allez introduire dans ces cas-là. Voilà ce que je voulais vous dire.